Chapitre 10 Amour idée. Le lendemain, au jour naissant, Ascanio, déterminé à remettre entre les mains du maître sa destinée, se dirigea vers la fonderie où Cellini travaillait tous les matins. Mais au moment où il allait frapper à la porte de la chambre que Benvenuto appelait sa cellule, il entendit la voix de Scozzoni. Il pensa sans doute qu'elle posait et se retira discrètement pour revenir un peu après. Cependant, Scozzoni ne posait pas le moins du monde. Elle n'avait même jamais mis le pied dans la cellule où personne, au grand désespoir de sa curiosité, n'avait encore pénétré et où Benvenuto ne souffrait pas qu'on le dérangeât. Aussi, la colère du maître fut terrible lorsqu'en se retournant, il vit derrière lui Catherine, ouvrant plus grand que jamais ses grands yeux éveillés. Le désir de voir de l'indiscrète trouvait d'ailleurs peu à se satisfaire. Quelques dessins sur les murs, un rideau vert devant la fenêtre, une statue d'Hébé commencée et une collection d'outils de sculpteur formaient tout l'ameublement de la chambre. « Qu'est-ce que tu veux, petit serpent? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pour Dieu, tu me poursuivras donc jusqu'en enfer !» s'écria Benvenuto à la vue de Catherine. « Hélas, maître, » dit Scozzoni, et en faisant sa plus douce voix, « je vous assure que je ne suis pas un serpent. Eh bien, dépêche, qu'as-tu à me dire ?»« Oh, mon Dieu, Benvenuto, » dit Scozzoni, et apercevant la statue ébauchée, « ah, quelle admirable figure, c'est votre Hébé, je ne la croyais pas si avancée, quelle est belle !» « N'est-ce pas ?» fit Benvenuto. « Oui, bien belle, et je conçois que vous n'ayez pas voulu me faire poser pour cette nature-là. « Mais qui donc vous a servi de modèle ?» continua Scozzoni et inquiète. « Je n'ai vu entrer ni sortir aucune femme. »« Tais-toi. Voyons, chère petite, ce n'est assurément pas pour parler sculpture que tu es venue. » Non, maître, c'est à propos de notre Pagolo. Eh bien, je vous ai obéi, Benvenuto. » Il a profité de votre absence hier au soir pour m'entretenir de son éternel amour, et, selon vos ordres, je l'ai écouté jusqu'au bout. « Ah, oui, da, le traître, et qu'est-ce qu'il te disait ?»« Ah, il est à mourir de rire, et je voudrais, pour je ne sais quoi, que vous eussiez été là. Ah, mais vous ne devineriez jamais, Benvenuto, la cachette que le sournois avait choisie. Je vous le donne en cent, en mille. Il n'y a que ses fronts baissés et ses yeux en dessous pour découvrir de pareils coins. » Il voulait loger nos amours, savez-vous où? Dans la tête de votre grande statue de Mars. On peut y monter, dit-il, avec une échelle. Il assure qu'il y a là une fort jolie chambre où l'on est aperçu de personne, tout en ayant sur la campagne une vue magnifique. L'idée est triomphante, en effet, dit Benvenuto en riant. Et qu'as-tu répondu à cela, Scozzoni? J'ai répondu par un grand éclat de rire que je n'ai jamais pu retenir et qui a fort désappointé mon Pagolo. Il est parti de là pour être très touchant, pour me reprocher de n'avoir pas de cœur et de vouloir sa mort, etc. Eh bien, tu as eu tort, Scozzoni. Il ne fallait pas le décourager ainsi. Vous m'avez dit de l'écouter, je l'ai écouté. Tu ne dois pas seulement l'entendre, mon enfant, il faut que tu lui répondes, c'est indispensable à mon plan. Parle-lui d'abord sans colère, puis avec indulgence, mais puis avec complaisance. Quand tu en seras là, je te dirai ce qu'il te faudra faire. Mais cela peut mener bien loin, savez-vous. Vous devriez être là, du moins. Sois tranquille, Scozzoni, et je paraîtrai au moment nécessaire. Tu n'as qu'à te reposer sur moi et suivre exactement mes instructions. Va maintenant, chère petite, et laisse-moi travailler. » Catherine sortit en sautant et en riant d'avance du bon tour que Cellini allait jouer à Pagolo et dont elle ne pouvait néanmoins deviner le premier mot. Cependant, Benvenuto, quand elle fut partie, ne s'était pas remis à travailler comme il lui avait dit. Il avait couru précipitamment à la fenêtre qui donnait obliquement sur le jardin du Petit Nel et était resté là, comme en contemplation. Un coup frappé à la porte l'arracha brusquement de sa rêverie. « Grêle tempête ! » s'écria-t-il furieux. « Qui est là encore ? Et ne peut-on me laisser en paix, mille démons ?» « Pardon, mon maître, » dit la voix d'Ascanio, « mais si je vous dérange, je vais me retirer. »« Quoi ? Ah, c'est toi, mon enfant ? Non, non, certes, tu ne me déranges jamais. Qu'y a-t-il ? Et que me veux-tu » Benvenuto s'empressa d'aller ouvrir lui-même à son élève chéri. Je trouble votre solitude et votre travail, dit Ascanio. Non, Ascanio, tu es toujours le bienvenu, toi. Maître, c'est que j'ai un secret à vous confier, un service à vous demander. Parle, veux-tu ma bourse, veux-tu mon bras, veux-tu ma pensée? J'aurais peut-être besoin de tout cela, cher maître. Tant mieux, je suis à toi, corps et âme, Ascanio. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai une confession à te faire, oui, une confession. Car sans être, je crois, coupable, j'aurai des remords jusqu'à ce que tu ne m'aies absous. Mais parle le premier. Eh bien, maître, oh, mais grand Dieu, qu'est-ce que donc cette ébauche? S'écria Ascanio en s'interrompant. Il venait d'apercevoir la statue commencée d'Hébé, et dans la statue commencée, il venait de reconnaître Colombe. « C'est Hébé, reprit Benvenuto, dont les yeux brillèrent, c'est la déesse de la jeunesse. La trouves-tu belle, Ascanio ? Oh, miraculeuse, mais ces traits, enfin, je les connais, ce n'est pas une illusion. Indiscret, et puisque tu lèves à demi le voile, il faut donc que je l'arrache tout à fait, et il paraît que ta confidence ne viendra décidément qu'après la mienne. » Eh bien, assieds-toi là, Ascanio, tu vas lire à livre ouvert dans mon cœur. Tu as besoin de moi, dis-tu. J'ai aussi besoin que tu m'entendes. Il suffira que tu saches tout pour que je sois soulagé d'un grand poids. Ascanio s'assit, plus pâle que le condamné à qui on va lire son arrêt de mort. Tu es florentin, Ascanio, et je n'ai pas besoin de te demander si tu connais l'histoire de Dante Alighieri. Un jour, il vit passer dans la rue une enfant appelée Béatrix, et il l'aima. Cet enfant mourut, et il l'aima toujours, car c'est son âme qu'il aimait, et les âmes ne meurent pas. Ascanio, le modèle de toute beauté, de toute pureté, ce type de la perfection infinie à laquelle nous autres artistes nous aspirons, il est près de moi, il respire, je puis chaque jour l'admirer. Ah, tout ce que j'ai fait jusqu'ici ne sera rien auprès de ce que je ferai. Cette ébé que tu trouves belle, et qui est de vrai mon chef-d'œuvre, ne me satisfait pas encore. Mon songe animé est debout à côté de son image, il me semble 100 fois plus magnifique. Mais je l'atteindrai, Ascanio. 1000 blanches statues qui toutes lui ressemblent se dressent et marchent déjà dans ma pensée. Je les vois, je les pressens, et elles écloront un jour. « À présent, Ascanio, veux-tu que je te fasse voir mon beau génie inspirateur? Il doit être encore là, près de nous, chaque matin, à l'heure où le soleil se lève, là, là-haut, il me luit en bas. Regarde. » Benvenuto écarta le rideau de la fenêtre et désigna du doigt à l'apprenti le jardin du Petit Nel. Dans sa verte allée, Colombe, la tête inclinée de sa main étendue, marchait à pas lents. « Qu'elle est belle, n'est-ce pas ? » dit Benvenuto en extase. Phidias et le vieux Michel-Ange n'ont rien créé de plus pur, et les antiques égalent tout au plus cette jeune et gracieuse tête. Qu'elle est belle! Oh oui, bien belle, murmura Ascanio, qui était retombé assis sans force et sans pensée. Il y eut une minute de silence pendant laquelle Ascanio mesurait sa douleur. Mais enfin, maître, hasarda avec effroi l'apprenti, où vous mènera cette passion d'artiste? Que prétendez-vous faire? Ah, j'ose me dire, elle sera à moi. Elle est la fille du prévôt de Paris, dit Ascanio tremblant. Quand elle serait la fille d'un roi, Ascanio, tu sais ce que peut ma volonté. J'ai atteint à tout ce que j'ai voulu, et je n'ai jamais rien voulu plus ardemment. J'ignore comment je parviendrai à mon but, mais il faut qu'elle soit ma femme, vois-tu. Votre femme, Colombe, votre femme? Oh, je m'adresserai à mon grand souverain, continua Benvenuto. Je lui peuplerai, s'il le veut, le Louvre et Chambord de statues. Je couvrirai ces tables d'aiguillères et de candélabres. Et quand pour tout prix je lui demanderai Colombe, ce ne serait pas François Ier s'il me refusait. Oh, j'espère, Ascanio, j'espère. J'irai le trouver au milieu de toute sa cour réunie. Tiens, dans 3 jours, quand il partira pour Saint-Germain, tu viendras avec moi. Nous lui porterons la salière en argent qui est achevée et les dessins pour une porte de Fontainebleau. Tous admireront, car c'est beau, et il admirera, il s'étonnera plus que les autres. Eh bien, ces surprises, je les lui renouvellerai toutes les semaines. Je n'ai jamais senti en moi une force plus féconde et plus créatrice. Jour et nuit, mon cerveau bout. Cet amour, Ascanio, m'a multiplié à la fois et rajeuni. Quand François Ier verra ses souhaits réalisés aussitôt que conçus, ah, je ne demanderai plus, j'exigerai. Il me fera grand et je me ferai riche, et le prévôt de Paris, tout prévôt qu'il est, sera honoré de mon alliance. Eh, mais vraiment, je deviens fou, Ascanio. À ses idées, je ne suis plus maître de moi. Elle à moi, rêve du ciel, comprends-tu, Ascanio? Elle à moi, embrasse-moi, mon enfant, car depuis que je t'ai tout avoué, j'ose écouter mes espérances. Je me sens maintenant le cœur plus tranquille. Tu as comme légitimé ma joie. Ce que je te dis là, tu le comprendras un jour. En attendant, il me semble que je t'aime plus depuis que tu as reçu ma confidence. Tu es bon de m'avoir entendu. Embrasse-moi, cher Ascanio. Vous ne pensez pas, maître, qu'elle ne vous aime peut-être pas, elle? Oh, tais-toi, Ascanio, j'y ai pensé, et je me suis pris à envier ta beauté et ta jeunesse. Mais ce que tu disais des desseins prévoyants de Dieu me rassure. Elle m'attend. Qui aimerait-elle? Quelque fat de la cour, indigne d'elle? D'ailleurs, quel que soit celui qu'on lui destine, je suis aussi bon gentilhomme que lui, et j'ai le génie de plus. Le comte d'Orbec, dit-on, est son fiancé. Le comte d'Orbec, tant mieux, je le connais. Il est trésorier du roi, et c'est chez lui que je vais prendre soit l'or, soit l'argent nécessaire à mes travaux, soit les sommes que la bonté de sa majesté m'assigne. Le comte d'Orbec, un vieux ladre, rechigné et usé, cela ne compte pas. Il n'y aura pas de gloire à supplanter un animal pareil. Va, c'est moi qu'elle aime, Ascanio. Non à cause de moi, mais à cause d'elle-même, parce que je serai comme la preuve de sa beauté, parce qu'elle se verra comprise, adorée, immortalisée. Mais, mon Dieu, Ascanio, pardonne-moi, égoïste que je suis, j'oublie que toi aussi, tu as un secret à me confier, un service à réclamer de moi. Je ne m'acquitterai jamais envers toi, cher enfant, mais parle, enfin, parle. Pour toi aussi, ce que je veux, je le puis. Vous vous trompez, maître, il y a des choses qui ne sont au pouvoir que de Dieu, et je sais maintenant que je ne dois plus compter que sur lui. Je laisserai donc mon secret entre ma faiblesse et sa puissance. Ascanio sortit. Quant à Cellini, à peine Ascanio eut-il refermé la porte, qu'il tira le rideau vert, et, approchant son chevalet de la fenêtre, il se remit à modeler son hébé, le cœur rempli de joie présente et de sécurité à venir.